Pierre de Charentenay, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, docteur en sciences politiques, si vous aviez un seul mot à mettre sur votre carte de visite, lequel mettrez-vous ?
Je mettrais sans hésiter jésuite, parce que c'est une partie de mon identité, c'est le lieu de ma formation religieuse, c'est le lieu de mon travail apostolique présent, c'est le lieu de mon compagnonnage avec des compagnons que j'estime, que j'apprécie, avec lesquels je vis au quotidien. Donc c'est l'ensemble de l'environnement de mon existence et de mon activité et du lieu de ma vocation personnelle.
Comment est-ce qu'elle est venue, votre vocation de jésuite ?
Oh, elle est venue, disons progressivement, en cherchant, ce n'est pas sur une espèce de coup de tête ou une sorte de vocation qui me serait tombée comme ça d'un seul coup, c'est après une réflexion, des rencontres, des débats intérieurs, et puis finalement je me suis décidé pour la Compagnie de Jésus.
Et maintenant vous êtes rédacteur en chef d'une revue prestigieuse dans le milieu intellectuel français, la revue Études.
Alors en effet cette revue est tout à fait remarquable, d'abord parce qu'elle est très ancienne, elle a démarré en 1856, parce que c'est aujourd'hui en France la première revue intellectuelle par son tirage et par le travail qu'elle nous demande, puisqu'il faut, sur une quantité de sujets très très divers les uns des autres, essayer de trouver les meilleurs auteurs, les plus clairs, les plus pertinents sur des sujets d'aujourd'hui, économiques, internationaux, philosophiques, éthiques, théologiques. Donc on est appelé à des rencontres multiples qui ont toujours un très grand intérêt.
Comment est-ce que vous vivez cette charge de rédacteur en chef ?
Ah, moi je la vis avec beaucoup de plaisir parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant, c'est exigeant dans le sens où il faut toujours redémarrer. On ne s'installe jamais dans une position quelconque. On vient de terminer un numéro, on est content, on reprend un autre, on recherche de nouveaux auteurs, donc on est sans arrêt à se remuer, à chercher. Donc ça, c'est une espèce de dynamique tout à fait formidable.
Surtout que le défi est quand même important. On dit de vous que vous essayez de ne pas dissocier le spirituel du charnel et de répondre aussi à cette interrogation de Jésus dans l'évangile de Jean. Comment entendrez-vous les choses d'en haut si vous n'entendez pas les choses de la terre ?
Ça, c'est en effet une phrase tout à fait centrale pour la revue et je pense pour même pour tout chrétien. Le sens de l'incarnation nous invite à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, à ce que les hommes sont en train de faire sur cette terre, le positif, le négatif, les dérives, les espoirs, pour essayer de discerner là-dedans qu'est-ce qui est de l'Esprit Saint finalement, qu'est-ce qui est du travail de Dieu à l'intérieur de cela, qu'est-ce qui est aussi du travail du démon à l'intérieur de cela, pour indiquer des lignes, non pas d'ailleurs en les forçant, en les imposant, mais en expliquant ce qui permet au lecteur de trouver son propre chemin à l'intérieur de toutes ces lignes-là.
Vous dites aussi l'ignorance n'a jamais servi personne.
Ah, c'est une catastrophe. L'ignorance est une catastrophe parce qu'elle enferme la personne sur elle-même, sur ce qu'il peut y avoir de plus difficile et de plus mauvais en elle. C'est le contraire, évidemment, de l'ouverture, du dialogue, du respect des autres, du travail avec les autres. C'est dans le travail avec les autres et avec l'autre, avec Dieu, que l'on arrive à la fois se construire et trouver sa véritable vocation dans le monde d'aujourd'hui.
Le dialogue pour les jésuites, c'est quelque chose d'important.
C'est tout à fait capital. C'est justement le respect de l'autre, c'est l'accueil de l'autre, trouver un chemin commun avec l'autre. Et c'est la base de beaucoup de choses, beaucoup de découvertes pour que chacun trouve sa place, sa propre identité et sa propre vocation.
Vous incarnez ce que l'on dit à propos des jésuites, qu'ils sont des mondialisateurs via leur traversée des cultures du monde entier depuis plus de 4 siècles.
En effet, depuis la fondation de la Compagnie de Jésus, Saint Ignace a envoyé très vite des jésuites en Éthiopie, en Inde, au Brésil, avec l'idée de faire parvenir le message du Christ dans ces cultures, en même temps avec une formation commune. Dans ce sens, il y a mondialisation, parce qu'il y a un esprit commun, cet esprit de dialogue avec les cultures, de respect des personnes. On voit comment, dans beaucoup d'endroits, quand des jésuites arrivent quelque part, ils commencent à faire des grammaires et des dictionnaires. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail étrange de faire des grammaires et des dictionnaires pour l'évangélisation? Mais c'est comme ça qu'on comprend les cultures. Et jusqu'encore récemment, quelqu'un a fait une grammaire d'arabe tchadien, ce qui n'existait pas, mais ce qui montre que nous sommes capables, comme occidentaux, de nous intéresser à des cultures et de dialoguer fondamentalement avec elles.
C'est pour ça que votre but n'est pas de baptiser, mais d'entrer dans leur culture.
Ben, le but n'est pas directement de baptiser, premièrement de baptiser, mais d'abord de comprendre la culture, de les écouter, et puis de parler avec eux, de chercher avec eux là où est la vérité, et éventuellement de les baptiser. Mais il n'y a pas de refus de ça a priori. Mais il faut d'abord entrer dans une compréhension de leur manière de penser, de leur manière d'être, fondamentalement.
Quelle a été votre expérience avec Michel de Gigord?
Ben, il a été enlevé à au moins deux reprises par des groupes musulmans du sud des Philippines, dans des situations très menaçantes, puisque sa vie était menacée, comme un otage peut risquer son existence. Chaque fois, il a été heureusement libéré par d'autres responsables musulmans qui l'ont ramené à la capitale, mais ça a été un risque très fort pour sa propre vie. Et lui s'était engagé tout à fait de manière permanente aux Philippines. Moi, je n'y étais que de passage, donc nous étions dans deux situations tout à fait différentes, mais je comprenais assez bien sa volonté d'entrer justement dans ce dialogue avec les Philippins qui sont dans des situations de tension et de conflit très très violentes. Et lui a choisi ces situations de conflit.
Comment est-ce qu'il les résout ?
Il les a résolus en tout cas en invitant les parties prenantes, catholiques et musulmans, à dialoguer entre eux, et notamment au niveau des étudiants. C'était tout à fait capital. Mais il y a certains qui n'aiment pas ça. Donc c'est ceux qui l'ont enlevé, qui ne veulent pas qu'il y ait ce dialogue, donc ce progrès dans la paix, dans une zone de sud des Philippines, qui est une zone très violente. Donc ils l'ont enlevé.
Les églises chrétiennes, quelle est leur place dans l'Europe ?
Elles ont une place absolument capitale. D'abord parce que le passé a été fondé sur les monastères et les cathédrales et a inspiré l'Europe d'aujourd'hui, parce que les chrétiens ont été à l'origine de l'Union européenne, pas que des chrétiens, mais en grande partie des chrétiens, et parce que je pense que l'Europe a pu inventer un mode de dialogue avec les églises, entre les institutions politiques et les églises et les communautés religieuses, que des pays comme la France n'ont pas su inventer. Les Français savent bien qu'une laïcité étroite pose des difficultés et risque de marginaliser les églises, voire pour certains faire de la religion une affaire privée, strictement privée. Au niveau européen, pas du tout. L'Union européenne a su accepter les églises comme partenaires d'un débat politique. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que les églises et les chrétiens ont leur voix à dire sur la construction européenne. Et ceci est à l'intérieur même des statuts, des constitutions et des traités.
Quand le ciel trouble la terre, c'est aussi un livre où vous parlez du développement des religions et de leur incidence sur la vie politique.
C'était le but de ce titre. Le ciel peut troubler la terre, c'est-à-dire les religions peuvent troubler la vie politique. Les religions ont été souvent, il faut qu'on le reconnaisse, un motif de violence. On le sait bien, le problème des protestants et des catholiques au XVIe siècle, c'était quand même tout à fait dramatique. Donc il ne faut pas non plus être irénique et gentil en disant tout va bien. Non, les religions ont été et sont encore dans certains lieux motifs de violence. Mais les religions peuvent aussi être motifs de paix, motifs de dialogue. C'est la grande réunion d'assises, l'invitation de Jean-Paul II, toutes les religions prient ensemble pour la paix. Donc il y a une présence des religions dans l'ensemble de la vie sociale et de la vie politique qui est pour cela tout à fait capitale. Ça peut être vraiment des lieux de paix, de rencontre entre les peuples, et pas seulement des lieux de violence. Mais il faut se rendre compte qu'il y a une relation constante, perpétuelle, entre religion et politique, et ne pas simplement dire que la religion est mise de côté dans les sacristies. Donc ça serait uniquement à usage liturgique. Non, pas du tout. C'est une vie ensemble qui se manifeste et qui a quelque chose à dire à l'ensemble de la vie commune que nous pouvons avoir comme citoyens dans un pays.
Dans votre livre « Regagner l'Europe », vous proposez un cheminement qui en appelle à l'intelligence, au cœur et voire aux racines spirituelles.
Si l'on veut vivre ensemble, il faut à la fois créer des institutions, que ces institutions puissent fonctionner, que chacun soit respecté dans ses différences. L'Europe est d'une certaine manière un laboratoire de vie ensemble dans la diversité des religions, des nations, des identités, des langues. Et c'est, je crois, ça qui est intéressant et particulier pour l'Europe, de vivre ensemble dans la diversité. C'est une chose compliquée, on le voit bien, puisque maintenant nous sommes dans un retrait un peu nationaliste, chacun de son côté, et qu'on a du mal à se dire qu'on pourrait faire un pas vers un bien commun ensemble qui nous permettrait d'avancer dans notre construction commune pour peut-être dire quelque chose à l'ensemble du monde.
Parmi tous vos centres d'intérêt, l'Europe, les États-Unis, le développement durable, le dialogue entre les religions, si vous aviez vos 80 neveux et nièces devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre ?
Peut-être leur transmettre le respect de la diversité des cultures, pour qu'à la fois ils comprennent ces cultures et qu'en même temps ils les aiment vraiment, parce que chacun a droit à être aimé dans son identité, et puis qu'ils trouvent eux-mêmes, dans cette diversité, leur propre vocation. Chacun est appelé à une chose, donc le trouver dans cette diversité, je crois que c'est un peu ça le mystère de l'existence de chacun, pour trouver le lieu où l'on est soi-même, le lieu où l'on répond à sa vocation, le lieu où l'on rencontre Dieu en vérité. Je crois que c'est ça peut-être le plus intéressant, là où il faut aider les plus jeunes, et c'est un peu ça que je leur dirais.